Il est 12h.
Le journal de midi.
César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite les grandes articulations de ce journal. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro sous la présidence du chef de l'État ivoirien. La séance de travail a adopté plusieurs mesures visant l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Culture et crise sociopolitique en Afrique, quelle alternance transgénérationnelle à visage humain. C'est autour de ce thème que le premier responsable de l'université Charles-Louis de Montesquieu, le professeur Amoy Urbain, a réuni la presse hier mercredi. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, aura bientôt sa semaine touristique et des loisirs. L'information a été révélée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui a également annoncé la construction de nouvelles infrastructures touristiques et la réhabilitation de quelques-unes en difficulté. L'actualité internationale nous conduira au Soudan où les discussions avancent entre les représentants du mouvement de contestation civile et le conseil militaire de transition. Et puis l'invité de la rédaction viendra boucler cette édition de midi. Jean-Claude Mabéa recevra le coordonnateur du projet pour la mise en place du programme national de volontariat en Côte d'Ivoire. Atoum Thomas Capellé présentera le programme et les opportunités qui s'offrent aux jeunes pour leur insertion socio-professionnelle et de leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro sous la présidence du président ivoirien Alassane Ouattara. La séance de travail a adopté plusieurs mesures visant l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. On en sait un peu plus avec Radi Razak Wilfried.
En vue du financement du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en milieu rural, le conseil a adopté un décret portant d'un accord de prêt d'un montant de 27 milliards de francs CFA entre la BAD et la République de Côte d'Ivoire. Sylvie Touré, porte-parole du gouvernement.
Ce projet d'envergure couvre trois districts, à savoir le district des Savanes, le district du Zanzan, le district du Woroba. Ce projet permettra d'installer notamment 2027 km de lignes électriques aériennes et d'effectuer 23 549 branchements et de poser 22 960 foyers d'éclairage public.
Dans le secteur agricole, le gouvernement a adopté un autre décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 3,750 milliards de francs CFA auprès du Fonds africain de développement pour financer la filière cacao. Sidi Touré.
L'objectif global de ce projet est de renforcer la gouvernance de la filière cacao afin d'assurer des revenus importants aux producteurs.
En ligne avec la réglementation communautaire de l'espace UMOA et les évolutions internationales de la métrologie, le Conseil a aussi adopté un projet de loi relatif au système national de la métrologie en Côte d'Ivoire. Sidi Touré, porte-parole du gouvernement.
Le projet de loi définit les unités de mesure légales utilisables en Côte d'Ivoire et les modalités de leur utilisation.
Au cours de ce même conseil, les présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont été nommés. Yamoussoukro, Radi Razak Wilfried, la radio de la paix.
Et puis juste après le conseil des ministres, le président de la République s'est entretenu avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire sur le contenu des échanges. Écoutons Nana Mboigny Ndri III, chef canton des Akouais, au nom de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels.
Les rois et chefs sont les garants de nos us et coutumes et de nos traditions. Nous avons donc dit à son Excellence le président de la République toute notre disponibilité à l'accompagner dans la construction de cet Ivoirien nouveau. Nous avons aussi réaffirmé notre détermination à continuer notre travail quotidien qui consiste à maintenir la paix sociale. Tant il est vrai que tout effort de développement ne peut s'avérer efficace que si la paix sociale est maintenue. Dans sa réponse, le président de la République s'est exprimé concernant ses relations avec son frère aîné, le président Henri Konan Bédié. Il nous a bien précisé qu'il n'y avait aucun problème relationnel entre eux. Simplement, la politique est quelque chose qui évolue et que le président Bédié pouvait revenir quand il le souhaitait. Il a dit encore que Soro restait son fils. Il a aussi évoqué le problème de la commission électorale indépendante. Le président de la République nous a affirmé qu'il restait ouvert au dialogue. Il a donné des instructions à son premier ministre pour poursuivre, maintenir le dialogue, et il nous a demandé de jouer notre rôle de relais, de retourner vers les personnes dont nous sommes les représentants au sein de la Chambre et de leur transmettre ce message de réconfort, de quiétude, de paix qu'il nous a délivré.
Voilà, c'était Nana Boyendri III, il est chef canton des Akwaé, il était au micro de Radi Razak Wilfried. Autre chose dans ce journal, culture et crise sociopolitique en Afrique, quelle alternance transgénérationnelle à visage humain. C'est autour de ce thème que le premier responsable de l'université Charles-Louis de Montesquieu, le professeur Amoy Urbain, a réuni la presse hier mercredi. Développant ce thème, il a souligné la contribution qualitative. Oui, la contribution qualitative que pourraient avoir les valeurs culturelles dans la résolution des conflits sur le continent africain. Nous écoutons le professeur Amoy Urbain.
Nos mécanismes traditionnels de prévention de conflits existent. L'Afrique existe. Nous sommes allés à la rencontre de l'autre en n'enseignant même pas ce que nous sommes véritablement dans nos écoles. L'une des hypothèses que nous avons observées, c'est que justement, tant qu'on n'aura pas identifié les fondements culturels d'un État moderne, ce sera difficile pour nous. Nous irons à la rencontre de l'autre, les mains presque vides, parce que nos spiritualités ont été bafouées de notre continent. Donc c'est la culture et les crises sociopolitiques, puisqu'en fait, les crises ont plusieurs fondements.
Et ça, vous pensez que nos valeurs culturelles peuvent nous permettre de procéder à un rattrapage à ce niveau, de corriger aussi ?
Tant que ce sont des valeurs, oui, mais pas toutes les pratiques. Parce qu'en fait, dans nos pratiques, il y a des pratiques surannées qui ne sont pas à promouvoir. Mais tant que ce sont des valeurs, c'est-à-dire ce qui peut permettre de faire de la modélisation, eh bien, il faut aller vers ces valeurs, les promouvoir et servir cela comme recette aux générations futures et montantes.
Voilà, c'était le professeur Amoy Urbain, il est responsable de l'université Charles-Louis de Montesquieu. Il est au micro de Potin aussi Épiné. Depuis le 16 avril dernier, date de la cérémonie de destruction du riz impropre à la consommation sur le site de Kossi-Ouen, l'opération semble se bloquer 10 jours après. Et pourtant, les autorités avaient promis une destruction quotidienne sur le même site pour l'enfouissement définitif des 18 000 tonnes. Mais alors, c'est quoi le problème? La réponse du président de la Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, Doukoua Godé.
Oui, nous aussi, nous avons constaté, c'est vrai, que depuis la cérémonie de lancement où il y a eu la première destruction, ben, plus rien, c'est silence radio. Cette situation pose des inquiétudes au niveau des consommateurs. Ça fait courir beaucoup de rumeurs. Moi-même, je me pose la question, pourquoi les choses se passent? Parce que les choses devaient aller rapidement et régulièrement, compte tenu de la quantité importante du riz à incinérer. Parce qu'il y a 18 000 tonnes de riz. Il fallait que cela soit régulier pour qu'on puisse le faire rapidement, libérer les entrepôts et rassurer surtout tous les consommateurs. Mais la question qu'on se pose, c'est que mais on n'a pas de nouvelles et les autorités qui avaient en charge de faire cette destruction de riz malpropre à la consommation ne réagissent pas, ne communiquent pas sur la question. Cette destruction de riz malpropre à la consommation, de le faire rapidement et de le faire dans la plus grande transparence.
Vous aviez voulu donner une suite judiciaire à l'introduction de ce riz avarié en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il?
La plainte, elle est faite. Demain, nous allons la déposer au service courrier du parquet d'Abidjan. Cette plainte est adressée à monsieur le procureur de la République, à qui nous demande d'engager une procédure pénale auprès de tous les acteurs de cette opération qui a mis en danger la vie des consommateurs.
Le président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Doukoua Godé, était avec Bonny Cabier. Un mot d'éducation dans ce journal, les discussions entre les représentants du ministère de l'Éducation nationale et les syndicats ont pris fin le mercredi 18 avril dernier à Grand Bassam. La COSEFC note à l'issue de cette phase de discussion des points de convergence dans les discussions, mais plusieurs points de divergence également. Elle dit attendre le discours du 1er mai du président ivoirien Alassane Ouattara. On écoute les explications de Pacom Matabi, il est le porte-parole de la coalition secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire.
à l'issue des 4 jours de discussion que nous avons eues avec l'administration à Grand Bassam, nous sommes restés sur notre faim quant aux réponses que l'administration a apportées à nos revendications. En ce sens que les représentants de l'administration n'avaient pas d'autorité de leur mandat à décider de réponses concrètes à nos revendications. Tout ce que nous avons fait a consisté à un exercice de relecture de nos revendications et la synthèse de cette relecture sera portée au Premier ministre qui, en dernière instance, décidera. Nous avons donc interpellé l'opinion nationale, la communauté internationale et surtout les institutions qui avaient joué la médiation auprès de nous et qui avaient pris ainsi des engagements à œuvrer au retour de la paix dans le système éducatif ivoirien. Nous attendons tous le 1er mai le discours du président de la République. Nous fondons grand espoir par son discours dans le sens, bien évidemment, de résolutions concrètes à nos préoccupations sociales. Et après quoi, nous irons à l'Assemblée générale le 8 mai prochain pour analyser son discours du 1er mai en vue d'apprécier la situation qui prévaut et prendre les décisions qui s'imposent. Donc, c'est à la base de décider de la reprise ou non de la grève. Ce n'est pas nous. Actuellement, il n'a plus de salaire mis sous contrôle. Tous les comptes ont été dégelés. Cependant, nous notons des désagréments dans l'équilibre et la stabilité des comptes de plusieurs enseignants, eu égard au gel de ces comptes-là.
Voilà, c'était Pacom Matabi, porte-parole de la coalition secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFC. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, aura bientôt sa semaine touristique et des loisirs. L'information a été révélée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siando Fofana, qui a également annoncé la construction de nouvelles infrastructures touristiques et la réhabilitation de quelques-unes en difficulté. Nous l'écoutons.
Yamoussoukro sera la première ville de Côte d'Ivoire à accueillir un hippodrome. Cela est un gage de développement touristique et culturel. La réhabilitation des berges du Kossou, une préoccupation du gouvernement. Le parc d'Abou-Kouamé-Kro. Cette richesse, nous allons réapprovisionner le parc d'Abou-Kouamé-Kro, faisant de ce parc un lieu de visite pour ceux qui sont avides de dépaysement et continuer à préserver un cadre qui renforcera les acquis touristiques de Yamoussoukro. Du coup, nous reconstituons le triangle d'or de Yamoussoukro, le parc d'Abou-Kouamé-Kro, l'hippodrome et les berges de Kossou pour les courses de la pêche sportive et avec l'hôtel président et son parcours de golf. Voilà que Yamoussoukro renoue avec son passé et avec un avenir de plus en plus glorieux. Nous, nous engageons à faire en sorte qu'il y ait très prochainement une semaine touristique et de loisirs, ici même à Yamoussoukro.
Voilà, à l'instant, c'était le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siando Fofana. À présent, l'actualité internationale au Soudan. Les discussions avancent entre les représentants du mouvement de contestation civile et le conseil militaire de transition à quelques heures d'une marche géante promise par l'opposition dans les rues de Khartoum au jour du jeudi. Une réunion s'est tenue hier mercredi soir au siège de la présidence. Eh bien, résultat, les militaires annoncent un accord avec la plupart des exigences des leaders de la contestation. Sans surprise, c'est Jeanine Mabunda qui a été élue à la tête de l'Assemblée nationale congolaise hier mercredi avec 374 voix sur 500 députés. Elle était la seule candidate après l'invalidation de la candidature de son challenger Henri Thomas Lokombo. Elle est la première femme élue à ce poste en République démocratique du Congo. Sans transition à présent, l'invité de la rédaction Jean-Claude Mabéa reçoit le coordonnateur du projet pour la mise en place du programme national de volontariat en Côte d'Ivoire. Atoum Thomas Tchakbele présente le programme et les opportunités qui s'offrent aux jeunes pour leur insertion socio-professionnelle et de leur contribution au développement de leur pays. Entretien.
Thomas Atoum Tchakbele, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter ce programme-là?
C'est un programme initié conjointement par le gouvernement ivoirien, le PNUD et le programme VNU. Donc, il a pour principal objectif de travailler à la participation à l'inclusion des jeunes, donc par leur mobilisation sur les missions d'intérêt national ou public.
De façon simple et claire, qu'est-ce que ce programme fait concrètement pour les jeunes?
Voilà, de façon simple, ce programme travaille à la mobilisation des jeunes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que pour que la Côte d'Ivoire, si nous voulons utiliser le paradigme aujourd'hui qui est développé, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire émergente, elle ne peut pas être émergente sans la contribution de tous, et particulièrement les jeunes qui font près de 77% de la population active. Donc il est important de trouver des créneaux qui permettent à ces jeunes d'apporter leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Donc le programme s'insère comme un outil dans ce sens. Donc au-delà d'un simple programme qui travaille à mobiliser, à faire participer les jeunes, c'est un outil qui est mis à la disposition des sectoriels de tous les ministères qui peuvent s'appuyer sur cet outil pour atteindre des résultats dans le cadre de leur stratégie sectorielle.
En termes d'action, qu'est-ce que ce programme a déjà fait sur le terrain?
En fait, le programme, sa principale action, c'est de mobiliser les jeunes. Mais le travail de mobilisation est tout un processus. D'abord, il travaille à faire candidater les jeunes. Ensuite, il les organise, c'est-à-dire ils sont sélectionnés, ils sont interviewés, ils sont formés et ensuite, ils sont envoyés en mission. Mais les missions, ce n'est pas sur toutes les missions qu'un volontaire intervient. Donc, ces missions doivent respecter les principes du volontariat. Donc, le volontaire ne peut pas aller, par exemple, occuper un poste salarié. Le rôle du volontaire, c'est d'apporter un appui, peut-être à des salariés, pour atteindre rapidement des résultats. Le volontaire n'est plus mobilisé pour une activité récurrente, c'est-à-dire qu'une activité qu'on fait chaque jour. Le volontaire est porteur d'un changement social. Son intervention doit apporter un plus dans la structure dans laquelle il va intervenir.
Depuis 2016 que vous êtes dans la phase pilote, y a-t-il des jeunes volontaires qui ont bénéficié de ce programme?
Aujourd'hui, nous avons, en fin 2018, sur la période 2017-2018, nous avons fermé près de 850 jeunes. Et sur les 850 jeunes, 600 ont pu participer aux missions de volontariat de 6 mois à 1 an. Donc, c'est des jeunes qui ont travaillé dans beaucoup de domaines. Ils ont travaillé dans le domaine environnemental, dans la protection de l'enfant, dans la protection de la femme, dans les questions liées au juridique, au niveau communautaire. C'est des jeunes qui ont fait un travail extraordinaire. Nous avons déjà une brochure qui essaie de valoriser ce travail-là.
Et quelles sont les zones d'intervention de ce programme?
Voilà, pour la phase pilote, on a la région de Tongpi, la région du Gbeke et le district d'Abidjan.
Vous avez animé une conférence inaugurale et l'un des concepts qui est ressorti, c'est la résilience des jeunes. Est-ce qu'on peut mieux comprendre ce concept avec vous?
La chose qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, nos pays, et particulièrement la Côte d'Ivoire, ce n'est pas aussi facile pour un jeune de pouvoir s'insérer. La résilience tourne autour de la capacité de ce jeune à pouvoir saisir les opportunités ou à passer ses difficultés d'insertion pour pouvoir s'insérer. Donc, un forum avec un tel thème est le bienvenu parce que ça nous permet de nous questionner sur la capacité de nos jeunes à pouvoir s'en sortir aujourd'hui. Parce que l'insertion dont on parle des jeunes partout, elle ne dépend pas seulement de l'État ou du gouvernement, elle est également liée à la capacité du jeune. Même si le pays a un rôle à jouer dans cette capacité, le jeune a le premier rôle.
Quel est ce rôle?
Il n'y a pas un gouvernement aujourd'hui qui va dire qu'il ne développe pas des initiatives. C'est le rôle du gouvernement de réfléchir, de proposer des initiatives qui puissent permettre à ces jeunes d'en profiter. Mais le gouvernement ne veut pas aller chercher chaque jeune dans sa maison. Il y a des dispositifs qui sont développés. C'est aux jeunes maintenant d'aller vers ces dispositifs, de s'informer. Je ne dis pas qu'on peut trouver toutes les solutions, mais la plupart des jeunes trouveraient solution s'ils approchaient.
Quels sont ces dispositifs qui sont disponibles aujourd'hui pour ces jeunes?
La Côte d'Ivoire a une grosse agence, l'Agence pour l'emploi jeune, qui développe plusieurs programmes, des programmes de stage, des programmes de premier emploi, des vastes programmes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre.
Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, ces jeunes qui disent qu'on n'a pas d'emploi, on n'a rien à faire, on n'a pas d'occupation. Qu'est-ce qu'ils doivent faire donc pour pouvoir être utiles pour le développement de leur pays?
Vous savez, ce qui est un peu bizarre dans nos pays qui sont des pays pauvres, c'est que nous sommes des pays pauvres, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. C'est bizarre qu'on dise qu'on ne trouve pas du travail dans des pays où il y a beaucoup à faire. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est le travail salarié. Le travail salarié ne doit pas être fait en soi. L'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Donc, aux jeunes, comme je le dis toujours, de saisir ces opportunités, de regarder. Tous ne peuvent pas être insérés, mais il y a d'autres opportunités. Les jeunes doivent au moins s'essayer également à l'auto-emploi. Donc, identifier leurs compétences, voir de quoi ils sont capables, voir qui a besoin de ce que je sais faire, de ce que je connais, pour pouvoir maintenant, moi aussi, m'insérer. Donc, c'est tout un travail, c'est assez complexe, mais c'est un effort qu'on doit demander d'abord aux jeunes avant de faire face peut-être à l'État, c'est de voir quels sont les efforts que moi-même je fournis pour pouvoir m'insérer. Parce que c'est pas très intéressant tout de suite de rendre responsable le gouvernement tant que nous-mêmes, nous ne faisons pas l'effort. Donc c'est de ça que je vais parler en disant que les jeunes doivent saisir les opportunités. Même si elles ne sont pas nombreuses, beaucoup restent, ils perdent leur temps, or ces opportunités sont là. J'ai donné le site du programme national de volontariat, c'est-à-dire c'est un site sur le volontariat, volontariat.jeunesse.gouv.ci, c'est-à-dire là, le jeune va s'inscrire pour pouvoir participer au programme national de volontariat. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de sites qui parlent des questions de l'emploi.
Thomas Atoum, je vous remercie.
Merci également pour cette opportunité.
Voilà, l'invité du jour était le coordonnateur du projet pour la mise en place du programme national de volontariat en Côte d'Ivoire. Atoum Thomas Tchakbele se prêtait aux questions de Jean-Claude Mabéa. Fin de cette édition, le rappel de l'essentiel. Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro sous la présidence du président ivoirien Alassane Ouattara. La séance de travail a adopté plusieurs mesures visant l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Culture et crise sociopolitique en Afrique, quelle alternance transgénérationnelle, la visage humain. C'est autour de ce thème que le premier responsable de l'Université Charles-Louis de Montesquieu, le professeur Amoy Urbain, a réuni la presse hier mercredi. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, aura bientôt sa semaine touristique et des loisirs. L'information a été révélée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui a également annoncé la construction de nouvelles infrastructures touristiques et la réhabilitation de quelques-unes en difficulté. Enfin, l'actualité internationale nous a conduit au Soudan où les discussions avancent entre les représentants du mouvement de contestation civile et le Conseil militaire de transition.